Bonjour à tous. Trois anciens ministres ont été entendus cette semaine dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard. Mais pourquoi ont-ils été auditionnés et que contient le dossier judiciaire? Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour Jacques.
Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jacques.
On va voir avec vous où on en est donc 2 ans après le début de cette enquête. Et puis nous recevrons Benoît Berthelot. Il vient de publier Le Monde selon Amazon. Et avec lui, nous verrons que le géant américain ne fait pas que vendre en ligne ou diffuser des films. Il commercialise aussi un redoutable logiciel de reconnaissance faciale.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Ça a pris un peu de temps, mais enfin on a pu faire valoir les preuves, parce que les preuves existent, en tout cas je le crois, les preuves existent de ce que tout ça était un mensonge. Et donc je suis très content de la manière dont cette journée s'est déroulée. On est allé au fond des dossiers et c'était, j'espère, très précis dans l'épreuve.
Voilà, c'était François Bayrou qui s'exprimait à la sortie de son audition chez les policiers mercredi soir sur BFM TV. Un François Bayrou, vous l'entendez, satisfait, qui se dit heureux d'avoir pu présenter toutes les preuves de l'innocence de son parti après 2 ans d'enquête. Seulement ces preuves, à quels soupçons répondent-elles? Qu'ont découvert les policiers au cours de cette enquête? Eh bien, c'est ce que nous allons vous expliquer aujourd'hui, d'abord avec vous, Sylvain Tronchet. Mais avant de nous dévoiler ce que vous savez, on va peut-être quand même rappeler en 2 mots de quoi on parle. Autrement dit, de quoi le MoDem est-il soupçonné?
Eh bien, le MoDem est soupçonné, comme d'autres d'ailleurs, comme le Rassemblement National, comme la France Insoumise, d'avoir utilisé des assistants parlementaires européens au service du parti. Pour comprendre, il faut savoir que chaque député européen a une enveloppe pour payer des collaborateurs. Elle est plutôt confortable, c'est 24 000 euros par mois. Mmh. Or, le MoDem aurait demandé à ses élus de lui mettre à disposition une partie de cette enveloppe, ce qui, si c'était avéré, serait illégal. C'est ce que nous révélions il y a 2 ans, avant même l'ouverture de l'enquête, qui a donc valu cette convocation à François Bayrou notamment.
Ouais, ces pratiques, elles auraient toujours existé?
C'est possible, dès la création du parti, en 2007. On est juste après la présidentielle, l'UDF éclate, François Bayrou crée son mouvement et les policiers soupçonnent que l'utilisation des fonds européens ait été envisagée dès le début pour faire fonctionner le parti. Ils l'écrivent dans un rapport de synthèse dont nous avons fait lire un extrait.
Dès 2007, des irrégularités sur la réelle répartition du travail entre emploi MoDem et assistants parlementaires étaient constatées. Cela peut laisser supposer que ces irrégularités ont persisté sur le temps, voire se sont aggravées suite aux soucis financiers du MoDem.
Aux soucis financiers, ils font allusion à quoi?
Eh bien, François Bayrou fait un très bon score à la présidentielle de 2007, presque 19%. Mais les législatives derrière sont catastrophiques. Il n'a que 3 députés. Or, c'est le score des législatives qui détermine la dotation que verse l'État aux partis politiques. Le MoDem n'a donc pas d'argent. Il doit licencier une partie des salariés ex-UDF et même sous-louer une partie de ses locaux.
Et c'est ce qui expliquerait en partie qu'on envisage alors de payer des permanents du parti sur des enveloppes d'assistants parlementaires européens?
C'est une hypothèse qui est d'autant plus crédible qu'on avait déjà observé la même chose dans les années 90 avec des collaborateurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ce que nous a raconté un ancien assistant qui a accepté de nous parler à condition qu'on ne donne pas son nom. Il travaillait à l'époque pour Force démocrate, un parti déjà présidé par François Bayrou. Mais en fait, son contrat de travail, il l'avait signé avec un parlementaire pour qui il n'a jamais rien fait.
J'ai pas travaillé pour lui. Dire le contraire, c'est pas vrai. Enfin,
vous n'avez jamais rien fait. Vous n'avez jamais rien produit.
Absolument jamais. Absolument jamais. Sur mon contrat de travail, sur la fiche de paye, il y avait marqué assistant parlementaire, mais j'ai jamais été assistant parlementaire. J'étais permanent du parti politique.
François Bayrou, il le savait, ça?
Ah ben bien sûr. C'était le président du parti politique, c'était lui le fondateur de Force démocrate, parce que c'est lui qui a fait changer le nom, il a refondé le parti politique. Donc bien sûr, il le savait.
Il le savait, mais François Bayrou, lui, il a toujours nié l'existence d'un tel système.
Oui. Alors, il n'a pas répondu aux questions que nous lui avons adressées, mais effectivement, il a toujours démenti que son parti ait profité des fonds européens. tout en reconnaissant que certains permanents avaient une double casquette. Hein, parce qu'au Modem, les salariés cumulaient plusieurs contrats. Par exemple, ils étaient payés à 60% comme assistants européens et à 40% comme employés du parti. Après tout, pourquoi pas? Mais pour les policiers, cela pourrait être une manœuvre, comme ils l'ont écrit dans un rapport.
Un document de 2012, découvert sur l'ordinateur de François Bayrou, proposait une réorganisation du Modem et prenait en compte, pour son financement, le jumelage des contrats Modem avec des contrats d'assistants parlementaires.
Ah oui, donc pratiquement tous les salariés du Modem étaient censés travailler pour deux employeurs, hein, en fait. Sauf qu'il semble que certains assistants travaillaient quasiment exclusivement pour le Modem.
Oui, et ce soupçon est renforcé par le fait qu'ils étaient en permanence rue de l'Université, au siège du Modem à Paris. Comme cet ancien collaborateur de Marielle de Sarnez, la numéro 2 du mouvement, il a travaillé pour elle quelques mois vers 2010. Nous avons fait lire ce qu'il a raconté aux policiers.
Je suis resté rue de l'Université tout le temps. J'ai été recruté pour faire le lien avec les médias et notamment la préparation des interventions de Marielle de Sarnez dans les médias français.
En tant qu'eurodéputée ?
Non, en tant que femme politique française.
C'est-à-dire, qu'entendez-vous par femme politique française ?
Elle a deux casquettes, celle de numéro 2 du Modem et celle d'eurodéputée.
Avez-vous travaillé pour Marielle de Sarnez en tant que vice-présidente du Modem ?
Oui.
Ouais, donc lui reconnaît qu'il travaillait essentiellement pour le Modem, hein, on l'entend. Mais tous les anciens assistants qui ont été auditionnés ont dit la même chose ?
Alors, en gros, il y a deux catégories. Hein. Ceux qui sont toujours employés par le Modem aujourd'hui affirment qu'ils ont bien fait un travail d'assistant parlementaire. Les autres, ceux qui ont quitté le parti, ont souvent une toute autre version, comme cette ancienne assistante de l'eurodéputée UDF, Jeanne-Lie Fourtou.
Je me souviens qu'une fois, Madame Fourtou s'était énervée que je ne fasse rien pour elle et j'avais dû faire pour elle un tableau Excel. En fait, j'ai essentiellement travaillé pour l'UDF.
Que faisiez-vous pour l'UDF ?
Je me suis occupée de l'organisation des 16 colloques pour François Bayrou. Selon moi, ces colloques sont le socle du programme de François Bayrou pour la campagne présidentielle.
Ah oui, donc on aurait pu utiliser aussi ces personnes payées par l'Europe, donc, pour préparer la présidentielle en France ?
Eh bien, les policiers se posent effectivement la question. Hein. Et de notre côté, nous avons identifié certains assistants parlementaires qui avaient beaucoup travaillé en amont de la campagne 2012 de François Bayrou. C'est le cas de l'attaché de presse du parti, d'un réalisateur vidéo et du responsable de la campagne web. Son cas, lui, est intéressant. Il est embauché par le Modem, puis... quelques semaines plus tard, il bascule à trois quarts temps comme assistant de Jean-Luc Benamias. Or, ce spécialiste de la communication l'a affirmé devant les enquêteurs, il n'a jamais travaillé pour l'eurodéputé. Jean-Luc Benamias lui explique que si, mais en restant assez vague sur la nature de son travail.
Ouais, les enquêteurs se sont aussi intéressés à la standardiste du Modem.
Oui, alors elle aussi avait un double contrat, un avec le parti et un avec l'eurodéputée Nathalie Griesbeck. Ce qui, là encore, pose question, écrivent les enquêteurs.
Le temps de travail théorique alloué à ses tâches de secrétariat européen, 60%, paraissait disproportionné. Laissant penser que la majorité de son temps professionnel était donc consacrée à l'accueil et aux standards du Modem.
Mais Sylvain, si le Modem a vraiment utilisé des assistants parlementaires pour faire fonctionner le parti, il fallait que les députés soient d'accord pour ça, parce que ce sont eux les employeurs, non ?
Bien oui, et il semble que, pour verrouiller le système en quelque sorte, le Modem faisait signer un engagement écrit à certains parlementaires. Ce document, la première à en parler, a été Corinne Lepage, en 2015. L'ancienne députée européenne racontait qu'on avait voulu le lui faire signer, mais qu'elle avait refusé. Lors de notre enquête, deux autres anciens candidats Modem nous ont affirmé avoir vu cet engagement, mais à notre connaissance, les enquêteurs n'ont pas retrouvé ce document. En revanche, ils ont mis la main sur un mail de l'ancien directeur de cabinet de François Bayrou, Bernard Le Hideux, qui écrit ceci en 2011.
Après les dernières élections, les députés européens se sont engagés, comme l'avait fait leur prédécesseur, à consacrer un tiers de leur dotation au salaire de collaborateurs travaillant ensemble au siège du Modem et recrutés parmi le personnel de la maison.
Un tiers de leur dotation, mais ça représente quoi au final ?
Environ 6 500 euros de salaire brut par mois. Mais dans les faits, il semble que certains députés aient un peu renaclé. Dans ce mail, toujours, Bernard Le Hideux se plaint que deux d'entre eux ne donnent pas assez au parti. Écoutez ce qu'il écrit en conclusion.
Je n'arrive plus à rien et je suis obligé de dire que j'en ai assez d'aller tendre la main auprès de gens qui ne veulent pas, en fait, respecter les engagements qu'ils ont pris.
Ouais, donc certains n'auraient pas apprécié qu'on leur force la main et ils n'auraient pas donné assez.
Oui, mais même s'ils traînaient les pieds, le MoDem gérait une partie de leur enveloppe. En perquisitionnant dans les archives du directeur financier du mouvement, les enquêteurs ont découvert des éléments qui vont dans ce sens et ils en parlent encore dans un rapport.
Des documents découverts lors de la perquisition au MoDem montraient qu'il effectuait des calculs comptables sur la répartition de la charge salariale, récapitulant les différents montants disponibles par député européen et décidant de leur répartition. Ainsi, dans un échange de courriel avec le trésorier du parti, il discutait de la potentielle augmentation d'une collaboratrice grâce à l'enveloppe de Marielle de Sarnez dédiée à la rémunération de ses assistants parlementaires européens.
Mais alors Sylvain, si tout ça est vrai, comment ça a pu se faire sans que ça se sache pendant autant d'années ?
Eh bien notamment parce que le système est très complexe. Difficile de savoir qui fait quoi, sur quel temps de travail, avec tous ces contrats imbriqués. Ceci dit, le Parlement a un peu tiqué en voyant deux contrats en 2014. Il trouvait que la définition d'un poste était trop vague. Il avait également signalé au MoDem que le fait que des assistants travaillent au siège du parti était potentiellement source de conflits d'intérêts. Peu après, la chef de cabinet de Marielle de Sarnez envoie ce mail à deux cadres du mouvement.
Merci de veiller à avoir des preuves que l'assistant local travaille effectivement X% de son temps à sa mission d'assistant parlementaire. On m'a dit qu'il était arrivé qu'il y ait un audit et que les services vérifient les agendas de collaborateurs si c'était bien le cas. En cas d'audit, il faudra donc alors justifier par des mails, des notes, des comptes rendus de la réalité du travail parlementaire.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu qu'il existe un sérieux doute sur l'activité des assistants parlementaires rémunérés par l'Europe et que certains affirment avoir travaillé quasi exclusivement pour le MoDem, on va évoquer une autre question que pose le dossier judiciaire et cette fois-ci on va le faire avec vous, Élodie Guéguin. On s'est rendu compte qu'une collaboratrice de l'eurodéputée Marielle de Sarnez était employée à des tâches qui, en fait, n'avaient pas grand-chose à voir avec la politique.
Oui, alors Marielle de Sarnez, on le rappelle, c'est l'ex-ministre des Affaires européennes, une proche de François Bayrou. Nous avons eu accès à des SMS qu'elle envoyait à sa collaboratrice début 2015. Ces messages laissent en effet penser que cette assistante, en partie payée par l'Europe, s'occupait de choses qui relèvent plus de la sphère privée que d'une activité parlementaire. Voici par exemple ce que Marielle de Sarnez lui demandait.
Aurais-tu gardé les coordonnées de la personne qui est venue réparer les gouttières il y a quelque temps chez moi ? C'est le syndic qui te l'avait donné. Il paraît que j'ai pas renouvelé mon contrat annuel chez Cellogaz. Merci de vérifier. Peux-tu me dire, si possible, quel était le devis initial de l'entreprise pour mes travaux à l'Île-Dieu ? Et si nous avions fait un chèque d'acompte ? S'il te plaît, peux-tu sortir toutes les factures de travaux que j'ai payées pour l'Île-Dieu depuis le début de la maison ? Merci de me dire quand tu as tout. Sais-tu combien je donne par heure à Brigitte, ma femme de ménage, aïeux ?
Oui, effectivement, ça ressemble plus à un travail de secrétaire particulière que d'assistante parlementaire.
Oui, ou même de gouvernante, Jacques. C'est ainsi que cette assistante se décrit elle-même devant les enquêteurs. Elle s'en est d'ailleurs plainte dans un message à Marielle de Sarnez, message récupéré par les policiers et dont ils ont fait une synthèse.
Cette assistante a géré la construction de la maison de Marielle de Sarnez en Grèce, et notamment par la prise de contact régulier avec l'architecte en Grèce et à Paris, le suivi des virements bancaires en Grèce. Elle explique à Marielle de Sarnez qu'il s'agissait là d'un travail continuel à temps plein et qui ne rentre en aucune manière dans le cadre du contrat de travail qui a été passé avec l'eurodéputé.
Ouais, est-ce que ce type de travail doit être payé par l'Europe ou même par le MoDem, hein, d'ailleurs? La question se pose. En tout cas, tout ça fait penser à la police. Elle dit que son activité européenne de cette assistante était, disons, assez limitée.
Oui, d'ailleurs, après avoir épluché les documents de 2015 fournis par cette ancienne assistante, les policiers ont sorti la calculatrice.
4% des SMS et des courriels que nous avons consultés concernent le Parlement européen. 31% des échanges concernent les activités de Marielle de Sarnez au MoDem. Le reste, soit 65% des échanges, relève de tâches personnelles au profit de la femme politique.
Bon, et que répond à Saint-Marielle de Sarnez?
Eh bien, nous lui avons adressé une liste de questions et laissé des messages, mais la numéro 2 du MoDem n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Bien, alors reste le cas, Élodie, de Sylvie Goulard, ex-députée européenne, ex-ministre et actuelle commissaire européenne. Il semble que son assistant parlementaire Stéphane Théroux, lui, ait pendant un temps été rémunéré par le Parlement européen, à une époque où pourtant il ne travaillait plus.
Oui, alors ça ne vous a peut-être pas échappé, Jacques. Juste avant d'obtenir son poste de commissaire européenne, Sylvie Goulard a remboursé au Parlement la somme de 45 000 euros. Elle a reconnu avoir payé un assistant pendant 9 mois, alors qu'il n'avait fourni aucun travail pour elle. L'éphémère ministre de la Défense s'est justifié en expliquant que son assistant local voulait quitter la politique et qu'il voulait travailler dans le privé. Elle aurait donc continué à le rémunérer le temps qu'il trouve un nouvel emploi.
Ouais, ça aurait été un geste à caractère social.
En quelque sorte, mais au final, Sylvie Goulard a dû s'acquitter de sa dette envers Bruxelles, 45 000 euros, ce qui correspond à 9 mois de salaire brut.
Mais ça veut dire, Élodie, que si l'affaire n'avait pas éclaté, le Parlement européen n'aurait jamais su qu'il avait payé un assistant à ne rien faire?
Eh bien, peut-être pas, hein, car les contrôles sont très imparfaits et on le comprend bien à la lecture de cet autre PV d'audition. Deux fonctionnaires du Parlement européen sont venus témoigner dans le cabinet de la juge et voilà ce qu'ils ont dit.
Nous gérons pour les assistants un budget de 200 millions par an et près de 3500 opérations mensuelles. L'administration n'a pas les moyens de contrôler exhaustivement l'ensemble des actes réalisés dans le cadre des contrats. En tout état de cause, ce serait une charge administrative démesurée. En revanche, il existe plusieurs mécanismes de contrôle à chaque nouveau contrat et puis par échantillonnage sur la réalité du travail effectué.
Y a-t-il eu, depuis 2005, des contrôles que vous qualifiez de plus substantiels réalisés sur des assistants parlementaires du MoDem?
Non, il n'y a jamais eu de contrôle ciblé pour les assistants du MoDem.
Oui, jamais de contrôle. Bon, maintenant, ce qu'on peut aussi remarquer, et pour conclure d'ailleurs, Élodie, c'est que si pendant longtemps ce type de pratique n'était pas un sujet, comme on dit aujourd'hui, bah, c'est parce que c'était toléré.
Effectivement, non seulement cette façon de faire semble avoir été partagée dans le milieu politique, mais surtout, pendant longtemps, elle ne choquait pas les initiés. C'est ce que nous a dit ce collaborateur que nous avons entendu au début, vous savez, l'homme qui travaillait pour le mouvement de François Bayrou dans les années 90. À l'époque, il n'avait pas conscience que ces supposés petits arrangements, eh bien, ce n'était pas légal.
Ça posait pas de débat puisque tout le monde fait ça. Donc moi, on m'a dit, écoute, on te recrute. Le parti politique a pas les moyens de payer. Donc en fait, il y a des parlementaires qui acceptent de donner des demi-contrats. Très bien. Il y a beaucoup de députés qui offraient cette facilité. Donc bah voilà, on m'a dit, c'est ce parlementaire-là. J'ai signé mon contrat de travail et puis c'était parti. Mais à l'époque, je me suis même pas posé la question de savoir si c'était bien ou mal, puisque tout le monde le faisait. Quand vous arrivez, vous venez de votre province, vous avez un garçon qui vous recrute, enfin, pas sur le papier, mais qui met tout en place, c'est François Bayrou, qui est ministre, qui vous dit « on va faire comme ça ». Vous pensez que c'est pas choquant qu'un parti, qu'un homme politique, qu'un sénateur donne un bout de contrat. Moi, je me suis même pas posé la question à l'époque.
Ouais, ça lui semblait donc normal. Et la suite, c'est quoi, Élodie?
Eh bien, les investigations se poursuivent. Si la juge en charge du dossier estime qu'il n'y a pas de charge suffisante, elle pourra classer l'affaire. Dans le cas contraire, des responsables du MoDem et d'anciens parlementaires pourraient être mis en examen. Quant au Parlement européen, il pourrait demander à d'anciens eurodéputés de rendre de l'argent, comme il l'a déjà fait avec Sylvie Goulard. D'après nos informations, rien que sur la la mandature 2009-2014, Bruxelles envisagerait de réclamer au MoDem le remboursement des salaires de 9 assistants.
Donc à suivre, et puis je rappelle que vous avez contacté François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, et que seule Sylvie Goulard vous a apporté des précisions. Alors on va donc en rester là. Merci Élodie Guéguin, merci Sylvain Tronchet. Je précise que votre enquête, on peut la réécouter, la lire, la podcaster aussi sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter, Investigation RF.
Shoulder, I need you to understand. These are the earthquake drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses, the fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me.
C'est doux, c'est groovy, hein, on sent bien l'influence de Lou Reed. C'était Summer Girl, le dernier single des trois sœurs du groupe américain Haim.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Benoît Berthelot, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier Le Monde selon Amazon, un livre qui raconte les dessous de ce géant de la distribution par Internet, son histoire, les conditions de travail de ses salariés, qui sont maintenant un peu connus, son système d'optimisation fiscale, mais vous décrivez aussi des pratiques qui sont un peu moins connues. Et par exemple, vous expliquez que des robots d'Amazon surveillent les sites web de la concurrence et finalement adaptent leurs prix en fonction de ce que font les autres.
Oui, c'est ça, j'ai tout un chapitre du livre sur le fait qu'Amazon est en fait un supermarché entièrement géré par des algorithmes. Et Amazon est connu pour adapter ses prix, les prix de ses articles, à ceux de la concurrence, de toute la concurrence sur Internet. C'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des crawlers, des robots qui rampent partout sur le web, des robots virtuels bien sûr, des genres de mouchards, qui analysent des dizaines de fois par jour quels sont les prix des produits chez la concurrence et qui adaptent avec un temps de réaction très rapide de 10 minutes les prix sur Amazon pour être soit au même prix, soit moins cher pour les concurrents les plus gênants et vraiment les concurrents à battre.
Et ce que vous dites, c'est que quelque part, la grande distribution est devenue amateur à côté d'Amazon, c'est-à-dire que dans la grande distribution, on négocie des prix une fois pour toutes pour l'année, voilà. Alors que là, pas du tout.
Ça n'a rien à voir. La grande distribution, c'est l'ancien monde du commerce avec ces fameuses négociations commerciales dans des petits box au siège de Leclerc ou de Carrefour avec des coups de pression, des négociations qui durent des heures pendant plusieurs jours.
On avait fait une enquête il y a quelques années là-dessus.
C'est un sujet
justement
passionnant. Bon, alors elle est pas ringarde non plus la grande distribution. Elle fait entrer la technologie et des méthodes comme ça, mais par rapport à Amazon.
On disait déjà à l'époque que Leclerc exerçait une pression absolument insupportable sur les fournisseurs.
Absolument, pression, mais là vraiment, c'est-à-dire humaine, c'est du contact humain au moins, hein, c'est compréhensible. Maintenant, les grandes entreprises, les marques, avec Amazon, elles se retrouvent face à un système totalement différent, c'est-à-dire que c'est des mails automatiques qui viennent passer des commandes de produits, n'importe quand, qui dit le prix qu'on veut, c'est celui-ci, si le prix n'est pas respecté, la commande n'est pas passée. Donc il n'y a pas de négociation possible et il n'y a pas d'interlocuteur. Comme j'ai dit, c'est un magasin géré par ordinateur.
C'est un ordinateur qui décide.
Il y a en fait très peu de gens dans les locaux d'Amazon en France, à Clichy ou partout dans le monde, à Seattle aux États-Unis, très peu de gens qui gère vraiment les commandes, les prix, tout ça se fait automatiquement.
Alors vous racontez qu'à l'entrepôt d'Amazon de Sevrey, près de Chalon-sur-Saône, on balance à la poubelle des jouets pour enfants, des aspirateurs, des sèches-cheveux, des boîtes pleines de vêtements d'Armani, Lacoste, Ralph Lauren, parfaitement neufs.
Oui, Amazon a mis en place depuis des années ce système de destruction des invendus, qui concerne là aussi les entreprises qui payent pour mettre leurs produits en vente sur Amazon, ce qu'on appelle la place de marché. Et évidemment, quand ces produits ne se vendent pas, ils doivent normalement se les faire les récupérer leur stock. Parce qu'Amazon augmente le coût du stockage de ces produits dans les entrepôts, de manière rédhibitoire, jusqu'à 1 500 € par mois de stockage. Mais évidemment, quand ces vendeurs sont basés en Chine ou ailleurs, ils ne vont pas payer pour se faire rapatrier ces objets, et ils ont comme option de les faire détruire. Ça coûte 10 centimes, c'est moins cher que de se les faire rapatrier. Et donc effectivement, des produits vont à la benne. J'ai effectivement des témoignages d'employés qui m'ont envoyé des photos et qui m'ont dit que ça continuait.
Des employés dont c'est le travail, vous dites qu'il y a 3 ou 4 employés dont c'est le boulot de détruire des objets neufs.
Bien sûr, pas toujours les mêmes, mais ils sont surveillés par un vigile qui garde la benne, etc. D'autres e-commerçants ne proposent pas cette option. Amazon se défend en disant qu'il y a une TVA à payer sur les donations, parce qu'évidemment la solution ce serait de donner tout simplement ces produits à des associations, voire les faire passer dans d'autres circuits d'occasion. Enfin, il y a quand même beaucoup de solutions autres. Mais Amazon dit qu'il y a une TVA à payer sur ces donations. Depuis peu, Amazon a annoncé tester le don de ses produits aux États-Unis, en Angleterre. Ils disent qu'en France, ça pose problème. Ça me paraît franchement incompréhensible. Et surtout qu'Amazon n'est pas toujours aussi sourcilleux sur la TVA, sur ses vendeurs tiers qui ne la payent pas toujours. Donc effectivement, là, il va y avoir une loi aussi du gouvernement.
Ouais, les vendeurs tiers, c'est ceux qui utilisent le circuit d'Amazon, mais qui ne font pas partie d'Amazon.
Voilà, exactement, qui l'utilisent comme une vitrine.
Un peu comme eBay, quoi, un peu comme ces plateformes-là.
Exactement.
Ouais. Alors Benoît Berthelot, il y a autre chose, il y a d'autres services fournis par Amazon qu'on connaît beaucoup moins. Et là, il faut peut-être parler de ce qu'on appelle AWS. Qu'est-ce que c'est AWS?
C'est l'acronyme de Amazon Web Services, qui est une filiale à part entière d'Amazon, qui est aujourd'hui la plus rentable, celle qui lui rapporte plus que le commerce, qui est pourtant inconnu. Et c'est une filiale qui fait, pour simplifier, du cloud, donc de l'informatique en nuage, toutes ces entreprises qui payent pour avoir
des serveurs,
voilà, qui stockent à distance les données de leur site internet. Énormément d'entreprises sont clientes.
Alors vous citez Renault, la SNCF, Netflix, Decathlon, la Société Générale, Orange, et même Radio France.
Oui, vous l'ignoriez peut-être, même l'entreprise pour laquelle je travaille.
Je l'ai découvert dans votre livre,
Moi, je suis journaliste à Capital, mon entreprise aussi, Prisma Media, l'utilise. En fait, la plupart des entreprises qui ont besoin de cloud font appel à Amazon parce que c'est le leader mondial du cloud et qui a 30% de part de marché. Sur ce secteur, c'est plus que ces 4 concurrents réunis, qui sont quand même Google, Microsoft, Alibaba, IBM. Voilà. Donc c'est colossal. Amazon a été très tôt sur ce marché-là, qui croît à une vitesse folle et pratique des tarifs très compétitifs pour toutes les entreprises qui ont besoin de faire tourner leurs sites, leurs applications, qui ont besoin de stocker des données. Et c'est une
Compris des administrations très sensibles, la CIA, vous dites la police de l'Oregon et d'Orlando,
absolument,
le ministère de la Justice britannique,
voilà,
tous utilisent Amazon, tous donnent quelque part leurs données Amazon.
Voilà, le FBI a aussi un énorme contrat à 10 milliards qui s'appelle le contrat Jedi et pour lequel Amazon est candidat. Alors évidemment, à chaque fois, Amazon peut mettre en place des barrières de confidentialité conséquentes, c'est-à-dire que les entreprises ont seul accès aux clés qui permettent de faire correspondre les données stockées avec les noms des clients ou les informations sensibles peuvent être comme ça compartimentées. Mais évidemment, il y a des bugs informatiques qui sont toujours possibles. Et pour les données les plus sensibles, vous me parlez d'administration américaine et britannique, mais Amazon veut évidemment mettre l'administration française sur son cloud. D'ailleurs, ils ont un partenariat avec Sciences Po aussi pour former les futures élites des services publics à réfléchir avec le cloud. Et là, le problème, c'est le Cloud Act, une loi votée par Donald Trump qui permet aux services de renseignement américains
de contraindre les GAFA à livrer leurs données à la justice américaine.
Et même celles qui sont stockées en France et en Europe.
Et même celles qui sont stockées à l'étranger, ouais. Effectivement. Oui. Y a un autre système utilisé par Amazon qui est assez hallucinant. Alors là, ça s'appelle Recognition.
Oui, c'est un logiciel de reconnaissance faciale développé depuis des années par Amazon, qui permet toutes sortes de choses. Dans un parc d'attractions, ça peut permettre de retrouver un enfant qui s'est perdu. Dans les magasins sans caisse d'Amazon, ça permet d'identifier les clients qui prennent les produits dans les étagères et qui, pour savoir qui a pris quoi, parce que c'est une autre innovation d'Amazon. Et ce service-là, Amazon le commercialise, y compris à la police américaine. Vous citiez l'Oregon et Washington, c'est le cas. Et ça permet, ça doit permettre à terme à Amazon de se positionner sur ce marché de la reconnaissance faciale via la vidéosurveillance dans les aéroports, dans les gares. Par exemple, la BBC s'en est servie pour identifier les invités au mariage de Kate et William. Voilà, on peut reconnaître les célébrités comme ça.
Il y a une chaîne américaine qui, lorsqu'elle a des invités, elle n'a pas besoin de savoir qui c'est. Finalement,
absolument.
Automatiquement, le nom va s'afficher.
La chaîne parlementaire, c'est pratique parce qu'il y a beaucoup de parlementaires, ils se ressemblent tous. Voilà, on a tout de suite la personne qui parle.
Ouais.
Donc il y a un usage civil, mais il y a aussi un usage militaire, évidemment. Certains pensent aux armes qui seront pilotées par intelligence artificielle, qui pourront fonctionner avec ce système-là. Il y a des salariés d'Amazon qui s'en inquiètent, évidemment.
Mais ça veut dire que ce vendeur sur Internet, qui pour nous vend des livres, des CD, etc., a accès aux données déjà d'un certain nombre d'administrations sensibles, et demain aura peut-être accès au visage de l'ensemble d'entre nous sur l'ensemble de la planète.
Alors, elle les stocke. Dire qu'elle y a accès, Amazon vous répondrait que non, puisqu'il y a ce système qui fait que le stockage est a priori confidentiel, hyper sécurisé. Bon, évidemment, on peut penser jusqu'à ce qu'il y ait une faille ou une fuite, il en arrive en permanence. Mais surtout, c'est Amazon et les ingénieurs d'Amazon qui définissent la manière dont marche ce système de reconnaissance faciale. Or, il n'y a pas de logiciel de reconnaissance faciale qui soit parfait. Par exemple, une chercheuse que j'interviewe dans le livre a montré que sur des femmes de couleur, le taux d'erreur de reconnaissance était nettement supérieur. Donc là encore, les associations des libertés civiles américaines s'inquiètent de l'utilisation qui sera faite de ce service et des discriminations en fait dont se rendra responsable ce système de reconnaissance faciale.
Vous avez essayé de rencontrer Jeff Bezos, le patron d'Amazon,
oui.
Ça n'a pas marché.
Non, ça n'a pas marché. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup de temps pour un journaliste français comme moi. Il n'a pas de temps pour les journalistes en général en ce moment. Il ne répond plus à la presse directement. Il fait plutôt des conférences ou des interviews sur sa nouvelle passion qui est la conquête spatiale.
Oui. Vous l'avez aperçu sur son vélo quand même.
Voilà, j'ai fait une enquête de voisinage dans son quartier, le quartier où il habite, qui est une résidence très très huppée de Seattle, et je l'ai vu passer à vélo effectivement alors qu'il faisait son exercice quotidien, mais j'ai pas pu lui parler. Pour l'instant, j'espère que ça arrivera un jour.
Bien, merci Benoît Berthelot. Alors je rappelle que votre livre s'intitule Le Monde selon Amazon, et je précise qu'il est édité au Cherche Midi.
Merci.
C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique Michel Bézikian et Nicolas Slimani. Dans quelques instants, Emmanuel Kera nous attend avec sa librairie francophone. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.